Tout de suite, Euradio vous propose la diffusion de la conférence « L'Europe investit dans les pays de la Loire, quels enjeux ?» Une conférence organisée par la Maison de l'Europe à Nantes et enregistrée au CCO de Nantes le 5 décembre dernier. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, je me présente. Je m'appelle Fabien Cazenave, je suis journaliste à Ouest France. Très bon journal que je vous recommande. Et donc j'aurai le privilège et le plaisir de terminer de conclure cette journée avec tous nos intervenants ici présents. Je sais que pour certains d'entre vous, la journée a commencé tôt. Elle a commencé à 14h. Donc on va essayer d'être... J'encourage nos intervenants à être concis, précis et à faire preuve d'esprit pour pouvoir maintenir l'intérêt de cette salle. On a eu beaucoup de présentations justement sur, puisque le titre de la conférence c'est « L'Europe investit en pays de la Loire », quels sont les enjeux ? L'idée c'est aussi de vous rendre les choses un petit peu plus concrètes, voire peut-être vous donner envie, vous faire découvrir certains programmes et vous donner envie peut-être d'y aller, de vous rendre compte que finalement il y a peut-être certains aspects complexes, mais ce n'est pas ça la priorité, c'est que ça va vous permettre de réaliser des projets concrets. Cette journée est organisée donc par la Maison de l'Europe de Nantes, du 44 de Loire-Atlantique, qui fait ça avec différents partenaires, la Caisse des dépôts, la Banque européenne d'investissement, la représentation en France de la Commission européenne, l'entreprise d'AR, écoutez, je vous propose déjà de tous les applaudir parce que c'est grâce à eux qu'on peut avoir ce type d'événement. Nous allons avoir une première partie où vous allez avoir des interventions. Il y aura une deuxième partie où on va vous proposer le micro pour pouvoir poser des questions à nos différents intervenants. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires, on va essayer de garder le maximum de temps pour que vous puissiez poser vos questions et que les intervenants puissent échanger avec vous, puisque c'est aussi l'un des principes de toutes les conférences et débats qui sont organisés par la Maison de l'Europe. Justement, c'est justement cet échange, et que ça ne soit pas du top-down, comme on dit dans le milieu bruxellois, mais que ça soit vraiment un échange from the bottom, bottom-up, voilà, merci. Et je vais demander à nos intervenants également de bien parler dans le micro, parce que ce soir, c'est enregistré par l'excellente radio Euradio Nantes, et donc cette conférence sera rediffusée. C'est pour ça que je vais me permettre, en bon modérateur, d'arrêter déjà premièrement de parler et deuxièmement de tenir les temps pour qu'on puisse terminer à peu près à l'heure pour que ça soit diffusé au mieux. Avant de vous présenter, je vais vous présenter chacun des intervenants, mais on va commencer à rentrer directement dans le vif du sujet. Je me tourne vers la personne qui se trouve être à ma gauche. Guillaume Rotti, vous êtes déjà intervenu durant cet après-midi. Vous êtes chef du service presse et médias de la représentation en France de la Commission européenne. Alors, la REP, comme on l'appelle, en fait, en gros, c'est l'équivalent d'une ambassade dans une capitale qui vous permet d'échanger avec les gouvernements, mais également pour savoir un petit peu sentir le pouls d'un pays et de faire remonter ça à Bruxelles. Guillaume, est-ce que vous pourriez nous dire l'Europe investit en Pays de la Loire ? L'Europe investit dans les régions ? On dit souvent que Bruxelles, c'est loin.
Bonsoir à tous. Merci pour cette introduction. Et oui, l'Europe investit dans les régions et l'Europe investit partout en Europe. Ça peut paraître bête, mais c'est un peu notre rôle. On a dans l'Union européenne quelque chose d'assez unique dans le monde qui s'appelle un budget européen, où tous les États membres de l'Union européenne décident de mettre de l'argent en commun pour faire des projets communs. Et ce budget, c'est 1000 milliards d'euros sur 7 ans, c'est à peu près 150 milliards d'euros par an. Ça peut paraître énorme, c'est 1% du PIB de chacun des États membres, sachant que le budget français, c'est plus de 55% du PIB, donc c'est pour avoir la comparaison. Mais ça permet de faire énormément de choses très utiles et surtout de réaliser des projets européens sur des priorités communes dans toutes les régions européennes.
Guillaume Rotti, est-ce que vous avez un chiffre de ce que ça représente en France ?
Alors, j'ai plus qu'un chiffre, mais je ne vais pas non plus vous noyer de chiffres. En France, il faut distinguer, il y a trois grandes dépenses du budget européen. On dépense l'argent européen sur trois grands groupes d'actions. Le premier, c'est la PAC, qui fait en gros un tiers du budget européen et où la France est largement bénéficiaire.
La PAC, c'est la politique,
pardon, agricole, la politique agricole commune, puisqu'il y a une agriculture en France qui est encore très, très développée, très active et très dynamique. Donc une grande partie du budget européen vers la France va aux agriculteurs et aux projets dans le cadre de la politique agricole commune. Il y a un autre grand tiers qui est les projets des fonds structurels ou des fonds de cohésion, où ça c'est vraiment l'expression de la solidarité européenne, puisque c'est de l'argent qui est redistribué à chacune des régions européennes en fonction de son activité économique et de son niveau de développement. Et donc, il y a certaines régions en France qui touchent plus que d'autres parce qu'elles en ont plus besoin que d'autres. Et sur ce volet-là, c'est au niveau européen un tiers du budget. Pour la France, ça représente 27 milliards d'euros qui sont investis par l'Union européenne, en général au travers d'une coopération avec les régions, qui après sélectionne les projets. Et le troisième tiers, où là-dessus c'est plus difficile de donner des chiffres spécifiques par pays, parce que c'est justement les programmes européens qui sont là pour financer des projets européens, donc il n'y a pas de préallocation pays par pays, c'est vraiment les meilleurs projets en Europe qui sont financés, et ça c'est les projets qui financent la recherche et le développement, la culture, c'est Erasmus, c'est tous ces grands programmes européens qui financent des priorités et où il n'y a pas d'enveloppe, et donc je n'ai pas un chiffre spécifique pour la France là-dessus.
Est-ce que pourquoi est-ce que vous disiez que vous donniez un peu plus aux régions en fonction de leur état de richesse, leur développement? Est-ce que ça veut dire que on donne peu en France et beaucoup dans les pays, dans les anciens pays de l'Est, par exemple? Et quel est l'intérêt de faire ça?
La logique derrière, c'est d'exprimer la solidarité européenne au sens où on fait partie du même marché unique, donc on partage les mêmes valeurs et la même économie, et on peut créer son entreprise un peu partout en Europe. Et l'une des conséquences de ça, pour que la concurrence soit plus équitable entre les différentes régions européennes, c'est qu'il y ait des transferts d'argent des États membres les plus riches vers les États membres les moins riches, et en particulier au niveau régional. Donc la logique derrière, c'est celle-ci, c'est de dire on est tous dans le même marché, on est tous... On veut assurer une concurrence la plus équitable possible grâce aux fonds européens. Et l'autre partie de la question, c'était... Parce que la journée a commencé plus tôt que 14h pour moi.
Bien sûr, monsieur Rotti. La question, c'est pourquoi est-ce que vous le faites? Est-ce qu'il y a un intérêt, par exemple, pour les autres régions, le fait qu'on aide plus dans les pays de l'Est parce qu'ils étaient en retard économiquement? Est-ce qu'il y a un intérêt? Quel est l'intérêt, en fait? Il y a un intérêt pour... concrètement, pour nos entreprises?
Alors, il y a... Et après, si on rentre un peu plus dans le détail, il y a deux types de fonds qui expriment la solidarité entre les différents pays. Il y a un fonds qui s'appelle les fonds de cohésion, où là-dessus, c'est vraiment les pays qui sont le plus loin de la moyenne européenne de niveau de vie qui sont éligibles. Donc, c'est essentiellement des pays de la Nouvelle Europe, Pologne, Hongrie, Slovaquie. Et là-dessus, c'est des fonds qui servent à... essentiellement financer les infrastructures qui vont permettre à ces pays de gagner en compétitivité et de rattraper le niveau de vie de l'ensemble de l'Union européenne. À côté de ça, il y a un autre type de fonds qui s'appelle le FEDER, donc le Fonds économique de développement, le Fonds européen de développement économique et régional, et le FSE, le Fonds social européen, qui, lui, a plus vocation à financer des priorités communes qu'il y aura dans chaque région, en laissant la liberté à chaque région de décider quelle est la plus importante pour elle et avoir une certaine flexibilité sur ce qu'elle a envie de faire, mais qui permet de traiter des problèmes communs ensemble au niveau européen, comme l'innovation, la compétitivité, la lutte contre le changement climatique.
Alors, dernière question. Vous disiez que justement vous aidiez. Cet après-midi, on a parlé du plan Juncker, le principe d'être un effet levier, en fait, permettre à des projets de leur donner un petit coup de pouce pour pouvoir se réaliser, sans lequel ils n'auraient pas pu avoir la dynamique pour récolter tous les fonds. Est-ce que tous les projets européens, c'est ça votre arme économique, justement, c'est de donner des coups de pouce un petit peu partout?
C'est toujours bien de donner des coups de pouce. On essaie de donner des gros coups de pouce.
Ça, c'est des coups de pouce à plusieurs millions d'euros.
Voilà, au cas par cas. Les fonds dont on vient de parler là et tout ce que j'ai mentionné précédemment, c'est essentiellement des fonds qui interviennent en subvention. Donc c'est pour financer des projets qui ont besoin d'une aide publique pour être réalisés parce qu'il y a une dimension publique ou sociétale forte dans ces projets-là. Ce qu'on a voulu faire avec le plan Juncker de nouveau, c'était aussi de donner un coup de pouce à des projets qui ont plus une dimension privée mais qui ne se réalisaient pas parce que la situation économique n'était pas géniale quand on a lancé le plan Juncker en 2015, et donc de vraiment dynamiser l'investissement. Et on a créé ce nouvel outil qui est vraiment différent, qui est vraiment à part, qui est principalement à destination des entreprises et qui ne fonctionne pas par subvention mais qui fonctionne essentiellement par prêt, où en gros on va prêter à des créateurs d'entreprises ou à des gens qui veulent développer des projets. C'est des projets dont on attend à ce qu'ils soient rentables, donc ils nous remboursent l'argent qu'on leur prête, mais ça donne effectivement un coup de pouce et une dynamique à l'investissement en Europe. Et aujourd'hui, grâce au plan Juncker, on a réussi à mobiliser près de 250 milliards d'euros de financement au niveau européen, c'est 40 milliards au niveau français. Donc c'est quand même des montants qu'on a du mal à réaliser, mais qui ont un effet significatif sur l'économie. Et donc cet objectif de relancer l'économie et de relancer la machine a été atteint en partie grâce au plan Juncker.
Je vous remercie. Je me retourne vers Vanessa Charbonneau. Alors Vanessa Charbonneau, vous êtes vice-présidente aux affaires européennes à la région Pays de la Loire. Est-ce que l'argent qui vient de l'Europe, est-ce que c'est important pour vous ?
Ça, c'est une question. Donc oui, l'argent qui vient de l'Europe, alors ça dépend de quoi on parle. L'argent qui vient de l'Europe est évidemment importante pour la région des Pays de la Loire et ses acteurs. C'est ce que nous nous employons à valoriser au quotidien. Simplement, pour repréciser les choses, la région des Pays de la Loire est autorité de gestion des fonds européens. Concrètement, la région des Pays de la Loire est chargée de la mise en œuvre des politiques publiques européennes et des fonds qui y sont dédiés. Je préfère cette formule plutôt que gestionnaire des fonds européens, qui est un terme un peu administratif et qui, au fond, ne représente pas la dimension de l'action de la région, ou en tout cas la responsabilité de la région à l'égard de l'Europe. Puisqu'il s'agit bien d'intervenir, en tous les cas, de flécher les financements européens sur des priorités européennes.
Oui, c'est faire en sorte qu'on ne décide pas depuis Bruxelles où ça va, mais que ça soit quelqu'un au niveau local, régional, qu'on dise c'est là la priorité de développement.
Ah, je vais reprendre un terme que vous utilisez tout à l'heure, c'est on fait un peu de bottom-up. L'idée c'est de servir avant tout les territoires, avec une réserve néanmoins qui est que... Alors, c'est pas une réserve, c'est une précision à nouveau, que les fonds européens sont des fonds qui sont assez réglementés et que l'on a défini une sorte, je veux faire simple, mais une sorte de cahier des charges au début de la programmation qui définit les axes prioritaires et qui définit également les modalités de mise en œuvre. Donc dès l'instant où les projets correspondent aux critères qui sont définis dans ce cadre-là, ils sont financés.
Est-ce qu'on sait combien d'argent ça peut représenter ?
Alors, sur notre région, pour la programmation 2014-2020, on est sur un montant qui approche les 1 milliard d'euros. Voilà, sur les fonds qu'évoquait M. Rotti tout à l'heure, à savoir le FEDER, le FEADER, le FSE et le FEAMP. Alors,
le FEADER, c'est pour les agriculteurs.
Le FEADER, pas que. Le FEADER, c'est le Fonds européen agricole pour le développement rural. Donc c'est un fonds qui intervient exclusivement en milieu rural, de façon majoritaire au bénéfice des activités agricoles, mais qui intervient également pour, et je regarde madame qui est au bout, pour les territoires ruraux, et notamment les GAL, enfin la gestion des GAL, mais je laisserai madame en parler tout à l'heure, via ce qu'on appelle LEADER, qui est un programme qui intervient pour soutenir des projets qui sont là aussi gérés en proximité.
Pour une région comme la vôtre, comment ça se passe ? Vous disiez que donc c'est vous qui redistribuez, qui êtes acteur justement de la manière dont cet argent est distribué. Est-ce que vous avez une action ? Vous attendez juste que entre guillemets Bruxelles vous dise combien vous avez, quelle enveloppe à laquelle vous avez le droit, ou vous avez une action justement auprès de Bruxelles justement là-dessus ? Est-ce que vous allez chercher également un peu l'argent ? Est-ce que vous essayez de les convaincre de l'intérêt de donner un petit peu plus ou sur certaines enveloppes ?
Alors, il y a plusieurs volets. Donc, il y a le volet fonds structurels, donc politique de cohésion. Donc là, effectivement, l'enveloppe est définie par l'Union européenne, clairement. selon des critères qui sont des critères de richesse, positionnement géographique, des critères qui vont peut-être évoluer au vu de l'évolution, notamment de la sortie de la Grande-Bretagne, puisqu'on évoquait tout à l'heure l'enveloppe qui est définie, enfin le budget européen, et qui peut aller croissant peu ou diminuant de façon quasi certaine bientôt. Donc les critères, ils évolueront peut-être. En tous les cas, sur les fonds européens, nous menons une action de lobbying. En France, c'est parfois un gros mot, mais au niveau européen, ça ne l'est pas. Au contraire, il faut le voir de façon constructive, donc de lobbying pour faire en sorte que cette politique de cohésion continue d'intervenir après 2020 sur notre territoire. Ça, c'est pour les fonds européens. Mais nous avons également une action, beaucoup d'actions, mais une action de suivi, de fléchage, d'accompagnement des porteurs de projets sur les programmes sectoriels. Les programmes sectoriels que nous suivons, et notamment les personnes qui sont dans nos services à la région, au sein de la DPEG, mais aussi dans les services autres de la région.
La DPEG,
pardon,
qu'est-ce que c'est ?
La DPE, d'ailleurs, Direction des politiques européennes. Donc DPE, parce que nous avons souhaité que ce soit une direction qui soit unique, de façon à ce qu'elle soit visible et que les porteurs de projets sachent qui a interpellé. Donc la Direction des politiques européennes à Nantes, mais aussi le bureau de représentation des Pays de la Loire à Bruxelles, donc que nous avons renforcé.
C'est votre ambassade à vous, entre guillemets.
C'est un peu une enclave des Pays de la Loire face à la Commission européenne, nous avons deux représentants dont la directrice est ici ce soir, qui font le lien avec les porteurs de projets, qui font le lien avec les territoires et Bruxelles. Et je pourrais en parler très longtemps, donc je vais essayer d'être un peu plus synthétique, mais qui font aussi fonctionner le réseau aussi d'influence sur place, et donc qui suivent les projets. Et une dernière chose, nous avons également un travail que nous menons de façon étroite et dont selon ces différents vecteurs, ou via ces différents vecteurs, qui est un travail au quotidien. On parlait de bottom-up tout à l'heure, pour faire remonter les besoins des territoires, pouvoir flécher notre recherche d'informations aussi, et faire en sorte que l'Union européenne puisse faire en sorte, d'une part, que nous puissions démontrer la plus-value de l'Union européenne sur nos territoires, parce qu'elle intervient dans le quotidien de chacun. On ne le dit jamais assez, mais c'est dès l'instant où l'on se réveille, on fait...
Justement, j'allais vous poser ma dernière question, c'était là-dessus. C'était, est-ce que... comment est-ce que vous faites, vous qui gérez tout cet argent, etc., pour faire en sorte que les citoyens ou les acteurs se rendent compte que cet argent vient de l'Europe, et comment est-ce que vous jouez justement ce rôle d'évangélisation, j'ai envie de vous dire, même si a priori à Bruxelles on ne vous demande pas forcément de mettre des grands panneaux avec des drapeaux européens un petit peu partout. Si. D'accord. Bah justement, dites-nous, comment est-ce que vous faites ?
En fait, il y a des obligations réglementaires qui nous sont effectivement imposées, en tous les cas, qui sont prescrites par la Commission européenne, notamment pour l'attribution des fonds européens. Mais au-delà de ça, nous avons développé une communication autour de l'action européenne en général. Nous en parlons encore ce matin dans un journal quotidien. Il y avait un article qui évoquait une visite de réalisation que j'ai pu faire avec les services pour parler de deux projets qui ont été accompagnés par des fonds européens. Deux projets donc par le FEADER et un autre par le FEDER sur de la recherche innovation, l'autre sur une activité économique de production et conditionnement de mâches qui a permis l'accroissement du développement de cette entreprise et la création d'emplois. Donc nous en parlons, nous communiquons et nous ne le faisons jamais assez, mais j'ai l'impression que de plus en plus on en parle. Et en fait, là, ce qu'il fera qu'on en parlera le plus, c'est au plus les porteurs de projets pourront capter des financements, capter des coopérations aussi, parce que ce n'est pas que de l'argent. L'Union européenne, c'est aussi des possibilités de dynamique partenariale et de coopération interrégionale et internationale.
Dernière question piège.
J'adore les questions pièges.
Les pays de la Loire n'ont pas de frontières européennes. Comment est-ce que vous faites vivre l'Europe, justement ? Parce que c'est plus simple quand on est à Lille ou à Strasbourg, on voit concrètement, en une demi-heure, on est de l'autre côté d'une frontière. Vous, c'est quelques heures de voiture. Donc comment est-ce que vous faites en sorte que... Comment est-ce que vous pouvez convaincre les gens de l'intérêt de dépasser justement les frontières ?
on a une frontière maritime, enfin on a une façade maritime. On se considère quasi comme une région périphérique de l'Union européenne. Nous faisons d'ailleurs partie d'un collectif, une association de régions périphériques maritimes, donc périphériques ou et maritimes. Et nous travaillons très régulièrement avec elles, donc une coopération interrégionale transnationale. Et nous, on nous considère, enfin, ce n'est pas aucunement une difficulté. Au contraire, c'est quelque chose que nous valorisons, le fait d'avoir cette côte, enfin, en tout cas, cette frontière, si l'on veut, maritime.
Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Isabelle Coco et François Couillot. Alors, Isabelle Coco, vous êtes directrice de l'apprentissage en Pays de la Loire. Et François Couillot, vous êtes directeur du centre de formation d'apprentis de la Chambre de métiers de l'artisanat de Loire-Atlantique. J'espère que j'ai bien tout cité. Je me tourne vers vous, Madame Coco. Concrètement, l'apprentissage, en quoi il y a une dimension européenne là-dedans ?
Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je vais...
En parlant bien dans le micro pour que Euradio Nantes puisse bien diffuser la conférence après.
Donc c'est toujours impressionnant de parler aux côtés d'une élue régionale, de mon élue régionale, voilà, et puis des collègues effectivement de la région. Donc l'apprentissage, il est concerné par l'Europe, je dirais, à trois niveaux. Le premier, c'est l'aspect citoyen et éducatif. Parce que quand on parle d'apprentissage, on parle à la fois de jeunes et on parle aussi d'emploi. Donc effectivement, les centres de formation d'apprentis, sous l'impulsion de la région, amènent les jeunes à parler Europe, notamment dans le cadre du pacte éducatif régional, où les jeunes sont amenés à conduire un certain nombre d'actions pour mieux comprendre et connaître l'Europe. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, c'est la mobilité européenne et internationale. Mais là, ce soir, ce qui nous concerne, c'est la mobilité européenne. Donc là, effectivement, on invite les CFA, et on aura une journée spécifique sur ce sujet le 15 décembre prochain, on invite les CFA à se saisir, en fait, du programme Erasmus+, et demain, du volet qui sera plus particulièrement dédié à la mobilité longue des apprentis, à savoir Erasmus Pro, qui est en cours de réflexion sous l'impulsion du député Jean Arthuis. Et le troisième volet... Pardon ?
Élu de la région.
Oui.
De l'eurocirconscription.
Oui, voilà,
ouest.
Voilà, c'est ça.
Qui va de Quimper à La Rochelle.
Exactement. Et donc, le troisième volet, c'est ce qui va faire le lien avec le CIFAM. Mais par contre, j'aurais peut-être dû dire en préambule que l'apprentissage, c'est quand même 30 000 jeunes dans notre région, 54 centres de formation d'apprentis, mais qui recouvrent 246 à peu près, près de 250 sites de formation, 16 000 entreprises à peu près qui sont concernées, voilà, dont 70% sont des entreprises de moins de 10 salariés. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un volet à déployer vers des entreprises un peu plus conséquentes. Voilà pour les grands chiffres. Donc le troisième volet, effectivement, qui concerne Europe et apprentissage, c'est l'accompagnement financier des CFA de façon à ce qu'ils renforcent en fait leur accompagnement des jeunes, notamment dans leur accès à la qualification. Donc les Pays de la Loire sont une des régions qui mettent en œuvre en fait du Fonds social européen dans un esprit d'additionnalité de façon à faire plus. Donc d'une période à l'autre, on peut financer certaines activités et puis une fois que la vitesse de croisière est atteinte, on passe sur d'autres et là on va avoir un exemple avec le CIFAM d'une nouvelle action qui est mise en œuvre avec le Fonds social.
Alors justement, avant de passer la parole à Monsieur Couillot, j'aurais aimé que vous me disiez, Madame Coco, concrètement, l'argent européen qui vient, c'est une grosse part, ça représente quoi pour vous ?
Alors, c'est pas une part très importante, allons-nous dire, mais elle est significative. Voilà. Elle n'est pas
Pourquoi ?
Forcément... Parce que, donc, c'est de l'ordre de 3 millions sur un budget de un peu plus de 90 d'accompagnement des CFA. Donc, ça peut paraître modeste, mais en même temps, c'est significatif dans la mesure où ça a un effet levier. C'est-à-dire que ça permet d'amorcer en fait des actions nouvelles et de laisser le temps à la fois aux CFA dans le cadre de leur partenariat avec les entreprises via la taxe d'apprentissage ou leur branche professionnelle d'aller chercher les financements, voire à la région aussi d'apporter sa contribution pour financer ces nouvelles actions. Voilà. Et ensuite, on passe sur d'autres actions avec une majorité de financement FSE, enfin 50%, etc., etc.
Alors, je me tourne vers M. Couillot, François Couillot. Donc, je rappelle votre titre, directeur du Centre de formation d'apprentis de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Loire-Atlantique, le CIFAM. Concrètement, Fonds social européen. Quand on dit fonds, moi qui suis journaliste, quand je dois marquer Fonds social européen dans un article, déjà, premièrement, c'est long. Et deuxièmement, ce n'est pas très concret pour les gens. Alors, comment est-ce que c'est concret pour vous, justement ?
Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous, on dit FSE, on ne dit pas Fonds social européen, on abrège. Peut-être repréciser un petit peu ce qu'est le CIFAM, si vous voulez, en préalable. On a annoncé des chiffres au niveau régional. Pour le CFA, donc de la Chambre métier que je dirige, deux sites, le site lucéen et le site nazérien. On accueille 2500 apprentis. Donc pour faire simple, 2000 sur Sainte-Luce et 500 sur Saint-Nazaire, dans 5 grands secteurs d'activité. On forme des jeunes donc sur des niveaux CAP, BAC, BP, BTM, enfin je vais passer tous les diplômes, on a 54 diplômes, les métiers de l'alimentation, les métiers de la restauration, les métiers de la mécanique, les métiers d'art et les métiers du tertiaire sur des formations post-BAC. Donc pour répondre à votre question, le FSE pour nous c'est un réel levier. On a déposé un programme là pour... essayer de faire en sorte de mieux accompagner nos jeunes, hein, on le précisait tout à l'heure, Mme Coco le disait, public apprenti, donc public de salariés, qui arrivent dans nos CFA. Donc deux cas de figure, des jeunes qu'on a pu suivre parce qu'ils sont venus à nos portes ouvertes, ils ont déposé des dossiers, ils nous ont fait part de leur ambition, de leur projet. Et puis des jeunes qui arrivent le 2 septembre, le 4 septembre, le 10 septembre, voire le 30 novembre. Et ceux-là, on ne les connaît pas. Et on se doit, quel que soit leur parcours, leur histoire de vie ou histoire tout court d'ailleurs, de les accompagner et de les emmener à la réussite. Donc pour ce faire, on a tout un environnement bien sûr qui favorise cela. Et en même temps, on se rend compte qu'on a des publics de plus en plus différents. Donc il a fallu trouver des moyens pour faire en sorte de maintenir différents seuils d'indicateurs pour faire en sorte que ce qu'on propose hier avec des publics un peu plus dans la norme, je vais le dire comme ça, on puisse maintenir nos taux de réussite aux examens principalement, mais aussi les taux d'insertion, baisser nos taux de rupture, hein, puisqu'on est sur un contrat d'apprentissage, on est une entreprise, un jeune. Il faut savoir que c'est l'entreprise qui inscrit son jeune dans un CFA.
Hein, taux de rupture, c'est quand il quitte le programme, en fait.
Quand il quitte le programme, tout à fait, ouais. Donc voilà, donc nous, on a essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait mettre en place au niveau de notre CFA pour accompagner du mieux possible ces nouveaux publics. Donc on a réfléchi aux côtés de la région et donc on s'est inscrit dans un des axes qui était possible dans le cadre du FSE qui s'intitule « L'innovation dans l'accompagnement des parcours des jeunes au service d'une haute qualité de formation ». Voilà, alors ça c'est le titre, hein, il a fallu qu'on s'y inscrive, qu'on s'y raccroche. L'axe, je le dis quand même, ça va permettre un petit peu de resituer les choses. On s'inscrit dans l'axe 7, qui est investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage pardon, tout au long de la vie, avec une action qui est l'action numéro 10, une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âge dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main-d'œuvre et la promotion des parcours d'apprentissage souples, passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des compétences acquises. Voilà, donc nous on fait ça. Hein. Très humblement, non, je plaisante un petit peu, pour vous dire, voilà, il a fallu qu'on rattache, je dirais, ce qu'on fait au quotidien avec nos jeunes dans des explicatifs, ou en tout cas des cadres qui peuvent paraître un petit peu repoussants au départ, et quand on creuse, qu'ils ne sont pas du tout, parce qu'en fait, ce qu'on fait au quotidien, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de beaucoup changer et de beaucoup révolutionner les choses pour qu'on puisse s'inscrire et prétendre à des financements fléchés via l'Europe.
Concrètement, Ça vous aide à quelle hauteur ? Il y a un enjeu financier derrière. En quoi
oui.
Est-ce que ça vous aide ?
Oui, alors bon, je ne l'ai pas précisé parce que je ne veux pas faire trop long non plus. Depuis le 1er janvier 2015, les chambres de métiers d'artisanat de département se sont régionalisées. Donc on n'a plus qu'une seule entité aujourd'hui, une chambre de métiers de l'artisanat de région, qui regroupe les 5 CFA de l'Université régionale des métiers de l'artisanat, de l'URMA, donc 5 CFA dont celui de la Loire-Atlantique. Donc on a aussi travaillé en commun, et ça a été aussi une révolution sur ce dossier FSE qu'on a déposé, puisque ça a été un dossier qu'on a écrit à 5 mains, je serais tenté de dire, 5 directeurs de CFA, donc avec des objectifs communs, mais encore une fois, ce que chacun faisait au niveau de son CFA, on l'a mis en commun pour faire en sorte d'accompagner...
Ça vous a permis de toucher plus d'argent, en fait.
Oui, alors, par les chiffres, on est sur une enveloppe de 4,8 millions d'euros, donc on sollicite 50%, donc 2,4 millions d'euros de 2 années. Voilà, pour la première phase 2017-2019.
Et est-ce que sans cette aide-là, enfin, qu'est-ce que ça vous permet de faire ? Vous parliez d'un effet levier. Ça vous a permis de toucher des jeunes en plus ?
Alors, pas forcément de toucher
des encadrants en plus.
Alors, ça a surtout permis, oui, d'avoir des encadrants en plus. Hein, donc, pour situer nous sur la période et pour ce qui concerne le 44, on a recruté une accompagnatrice des formations par alternance. Donc, une personne qui est dédiée à faire en sorte de lever les freins ou les problématiques des jeunes dans le cadre d'un cursus apprentissage. On a également recruté des nouveaux développeurs conseillers jeunes adultes entreprises pour faire les liens entre une entreprise qui cherche, un jeune qui cherche. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important parce qu'on se rend compte que plus le
projet... Voire même de préparer leur premier rendez-vous pour qu'ils puissent faire bonne impression.
Etc. On voit bien que plus on travaille le projet en amont, plus on va jouer sur les taux de rupture.
Ah, je vais demander à votre Madame Coco de vous prêter son micro pour qu'on puisse bien vous entendre.
Voilà, on se rend compte que plus le projet est préparé en amont, plus on va pouvoir accompagner le jeune dans ce projet, justement, hein, en levant les freins, la distance, au déplacement, voilà, tout ce qui va être en lien avec le contrat de travail que va signer le jeune. Et puis le dernier axe, ça a été le renforcement de nos formateurs accompagnateurs sur les suivis individuels des jeunes au niveau de notre centre de ressources. Hein, il faut savoir que de plus en plus, dans nos CFA, on accueille des publics complètement atypiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un public atypique dans nos CFA ? On a 75% de nos jeunes dans le CFA qui sont sur des niveaux 5, donc ils sortent de 3e pour la plupart. Mais depuis une dizaine d'années, on accueille des jeunes qui ont une licence, qui ont une maîtrise, qui ont un master, des gens qui ont connu la fac et qui, à un moment de temps, se disent « c'est pas forcément fait pour moi » ou qui même s'interrogent à 25 ans en disant « mais quel métier je vais bien pouvoir faire demain ?» Donc ils reviennent chez nous pour faire un CAP, pour faire un bac. Donc on va adapter leur parcours puisqu'ils vont être dispensés de l'enseignement général, de beaucoup de choses. Mais ils restent dans le cadre d'un contrat de travail. Ils signent un contrat avec un employeur. L'employeur a l'obligation de les envoyer se former dans un CFA. Ils doivent faire 35 heures sur site dans le CFA. Donc on adapte leur parcours pour faire en sorte qu'une formation sur 2 ans, on la fasse sur 1 an. Donc ça veut dire qu'on a besoin de professeurs un peu plus pluridisciplinaires pour faire en sorte de les accompagner sur ces temps où on les sort du groupe classe, parce qu'ils ne suivent pas le cours de maths, ils ne suivent pas le cours de français, et on va travailler avec eux sur des fondamentaux plutôt axés sur la technologie en lien avec le métier.
Merci beaucoup. Donc là, on voit concrètement ce que le Fonds social européen peut apporter dans la région. Je me tourne vers vous, Stéphanie Arnaud. Vous êtes chargée de mission leader pour le pays du vignoble nantais. Alors, je suis désolé pour l'acronyme anglophone. Qu'est-ce que ça veut dire, leader ? En quoi ça vous concerne, l'Europe ?
Alors, leader, tout à l'heure, vous disiez « on fait ça ». Bonsoir à tous, déjà. Leader, ça veut dire, et on fait, liaison entre action de développement de l'économie rurale. L'idée là, c'est de vous présenter en fait cette politique publique européenne et quelle est-elle et qu'est-ce qu'elle permet sur un territoire, en l'occurrence un territoire rural et pays urbain, le pays du vignoble nantais. Donc j'avais une petite présentation, donc je ne sais pas s'il est possible.
Alors, grâce au formidable Jean-Marc qui court pour donc vous, en fait dans les écrans en fait vous avez. Sur les écrans sur les côtés, je le dis pour. Les gens qui sont dans la salle, vous avez la présentation PowerPoint. Alors, comme je vous ai dit, c'est enregistré au niveau en radio. Ça va passer en radio. Donc, Madame Arnaud, je vous demande d'être le plus descriptif possible pour que les gens puissent suivre ça. C'est à vous.
Merci. Donc, nous, Leader, ce qu'on fait, donc, c'est liaison entre action de développement de l'économie rurale. Et en fait, il existe 2600 programmes tels que Leader en Europe, 340 en France, 28 en région. Et donc, nous sommes un de ces programmes. Alors, on parle beaucoup d'argent quand on parle de l'Europe. Simplement, moi, je pense qu'il est important de rappeler que c'est une politique publique. Qu'une politique publique, c'est un outil qui est mis à disposition des acteurs locaux, nationaux, mais aussi locaux plus proches des territoires, en l'occurrence pour Leader. Et ce programme vise à concerter, à financer et à animer une stratégie d'aménagement et de développement du territoire. C'est important de reparler un peu de tout ça, parce que ce n'est pas simplement une enveloppe financière, mais on est là pour accompagner des projets qualitatifs et innovants sur notre territoire. Alors, la concertation, en fait, c'est que le programme Leader est conçu pour être mis en œuvre par des acteurs de la société civile et des élus publics du territoire. Donc concrètement, on a un comité qui rassemble environ 60 personnes qui représentent la société civile et les élus publics du territoire qui décident, en lien avec le conseil régional, qui est notre autorité de référence régionale, qui décide de ce qu'ils veulent financer, à quel niveau, quelles ambitions pour le programme, quelles exigences. On définit des critères qualitatifs, on sélectionne les projets et on décide d'y attribuer des financements européens. Donc ce sont des fonds FEADER, le fameux sigle qu'on a utilisé tout à l'heure. Le financement, en gros, on a 2 millions d'euros pour notre territoire qui compte 27 communes et environ, on va dire, 100 000 habitants. Et ce qui est important à retenir, c'est que cette enveloppe de fonds européens, c'est une enveloppe qui est complémentaire des autres politiques publiques.
Les 2 millions d'euros, c'est par an ou c'est sur...
Non, c'est sur la programmation 2014-2020. Mais encore une fois, retenons que c'est une enveloppe financière, mais elle a du sens par rapport à ce qu'on en fait. Donc je rappelle souvent, moi, à mes élus que 2 millions, c'est pas beaucoup si on n'en fait rien. Si on en fait beaucoup, si on accompagne au quotidien des porteurs de projets publics, privés, associatifs, à faire monter en qualité leurs projets, à réfléchir, à concerter, là, ça peut être un vrai sens. Ça peut donner un vrai sens. Donc ce sont des aides directes, ce sont des subventions qui sont versées aux porteurs de projets sur des projets du territoire. Donc il ne s'agit pas du tout finalement là de projets de dimension européenne. Ça pourrait, mais en l'occurrence, là, pour le moment, nous n'en avons pas. Et ce sont des projets qui peuvent être publics ou qui peuvent être privés au sens privé entreprise ou privé association. L'animation, c'est un aspect important puisque notre programme doit être mis en œuvre à l'échelle d'un territoire avec des gens qui y accompagnent. En fait, on travaille en réseau avec toute une série de développeurs économiques, des développeurs sur du patrimoine, des développeurs sur les thématiques environnementales. Et l'idée, c'est de travailler avec les acteurs du terrain qui sont là pour accompagner les projets publics, privés et pour les aider à se structurer, à se qualifier, à se positionner sur la scène régionale, etc. Et puis évidemment, on accompagne le montage des dossiers de demande de subvention. C'est la partie souvent que l'on évoque quand on parle des fonds européens et des politiques européennes, les dossiers et l'argent. Finalement, ça, c'est la carotte, entre guillemets. Les politiques qu'on accompagne, ce sont des politiques qui ont été définies à l'échelle locale. Tout à l'heure, on parlait de bottom-up. L'Union européenne parle de subsidiarité, c'est-à-dire mettre en œuvre les politiques européennes à l'échelle la plus pertinente où elles pourront être mises en œuvre. Donc, pour nous, c'est par exemple le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui définit des grandes orientations en termes de mobilité, de plan climat-énergie, de services publics de proximité organisés sur le territoire, de développement de l'accueil des entreprises, de préservation des richesses écologiques. La destination touristique est aussi un des sujets que l'on traite. Donc des porteurs de projets associatifs et privés qui portent des projets d'accueil touristique et la préservation du patrimoine. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de choses dans notre programme, beaucoup de choses avec une enveloppe qui est finalement pas énorme, mais encore une fois, ça dépend ce qu'on en fait.
Pourquoi est-ce que Leader Vignoble Nantais, pourquoi est-ce que vous avez une action spécifique sur le vignoble, justement ?
Alors, c'est, en fait, c'est, le programme Leader, il est porté par un projet de territoire. Un projet de territoire, ce sont des acteurs organisés à l'échelle de plusieurs communes et qui disent, nous, ensemble, on veut faire tel type de politique. Donc, en l'occurrence, c'est le schéma de cohérence territoriale qui définit les grandes orientations qui sont un peu indiquées là, hein. Autour de on veut préserver les richesses écologiques, on veut aménager, développer les services publics autour de pôles, on veut préserver et valoriser notre pays dans son patrimoine bâti et naturel. Donc il s'est défini autour de ce territoire parce que c'est un territoire de projet. Et c'était l'exigence régionale dans l'appel à projet Leader que de proposer un programme Leader organisé autour d'un territoire de projet. Il y en a 28 en région. Je vous ai mis à l'accueil les présentations des 28 programmes tels qu'ils sont aujourd'hui mis en œuvre en région.
Et vous êtes invité à vous servir en sortant.
On va peut-être passer sur la partie bilan. Pour terminer, je voulais vous présenter trois projets. Le premier, c'est un projet privé qui est porté par une structure entreprise qui vient de se créer, qui est une SAS, qui vise à développer des produits cosmétiques à base d'extraits de vignes en méthode biologique. On a évidemment une entreprise locale qui s'appuie sur des ressources locales, qui innove puisqu'elle crée un nouveau produit sur une nouvelle filière. Elle a une logique d'innovation économique mais aussi environnementale et elle participe à la diversification viticole mais également à la visibilité du pays du vignoble nantais sur la scène régionale, voire au-delà. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons subventionné ce projet.
Concrètement, le vin qui sort, c'est un vin sans sulfate.
Alors, ce n'est pas du vin, ce sont des produits cosmétiques.
Pardon, des produits cosmétiques. Oula, ce ne sera pas la mer à boire, mais quand même. Donc, sans sulfate quand même.
Oui, puisque c'est en méthode biologique. En fait, ils utilisent les extraits qui sont tirés de la vigne quand ils la taillent. Contrairement à d'autres producteurs qui font de la biocosmétique ou de la cosmétique à base de vigne où ils utilisent le mou ou les pépins de raisin, ce n'est pas le cas. Donc voilà, on soutient des entreprises qui innovent sur le territoire en s'appuyant sur les ressources du territoire, par exemple. En autre projet de développement no-touristique et patrimonial, c'est un projet de valorisation et de création de nouveaux espaces de réception au château du coin, qui est situé à Saint-Fiacre qui a reçu une subvention, bénéficie d'une attribution de subvention FEADER de 30 000 euros. L'intérêt, c'est qu'on préserve et on met en valeur un patrimoine d'un historique, d'un bâti viticole. Au-delà de ce patrimoine architectural et viticole, c'est encore une fois le développement d'une filière œnotouristique sur le territoire du vignoble nantais. Et là, c'est une structure également entreprise de type GFA.
30 000 euros sur 200 000 euros, c'est pas la majeure partie, mais sans ces fonds-là, est-ce que le projet aurait pu se...
Alors, en fait, on pose la question aux porteurs de projet, puisque c'est un des critères. On leur dit, qu'est-ce que vous feriez avec ou sans ou avec moins ? Ils sont amenés à expliquer ce qu'ils font en plus avec les fonds européens. Bien souvent, le projet, ils l'auraient fait, mais l'idée, c'est on aurait fait autrement. On a pris plus de temps, on a l'impression d'en perdre au début, puis finalement, on en a gagné sur le résultat. On a fait mieux. On a utilisé, par exemple, des matériaux plus qualitatifs. On a dû passer par un architecte. Alors, au début, on se disait qu'on n'avait pas les sous pour, mais comme c'était une exigence, ne serait-ce que pour le suivi après aussi du projet, ça nous a permis d'avoir un projet plus cohérent. On a été amené à échanger, à partager avec les partenaires, avec d'autres porteurs de projets sur le territoire, à échanger avec les élus sur les politiques publiques. Liaison entre action de développement de l'économie rurale, c'est un petit peu ça l'esprit. Donc on les amène en fait à sortir un peu de leur zone de confort et à faire autre chose, mieux, plus, différemment. Et c'est ça tout l'intérêt en fait de cette aide européenne. Et c'est vraiment l'esprit du programme LEADER tel qu'il a été créé initialement. J'ai un autre projet, si vous voulez, public, mais on peut le garder pour la discussion.
On le garde pour la discussion, comme ça me permet de... Je vous remercie beaucoup, Stéphanie Arnaud. Je me tourne vers Lisa Guérin. Lisa, vous êtes coordinatrice du projet des 5 ponts de l'île de Nantes. Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement de quoi il s'agit ? Puis il me semble que vous avez une petite vidéo à passer.
Exactement. Donc, bonsoir à tous. Lisa Guérin, je suis effectivement coordinatrice du projet 5 ponts. Donc, j'ai été recrutée via une subvention, dans un budget européen pour le projet. Et donc, pour coordonner la mise en œuvre du projet et le partenariat. Et je vais laisser effectivement les partenaires du projet, les 6 partenaires qui s'engagent dans la subvention européenne, présenter eux-mêmes le projet via une petite vidéo. En espérant que tout marche bien. Voilà.
Donc le projet est né petit à petit à partir de 2007, quand on a commencé à organiser des réunions avec les personnes qu'on accueille. Petit à petit, ils nous ont poussé à changer nos habitudes, à penser à un autre bâtiment. Et c'est pour ça qu'on est allé voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est là où il y a eu un déclic avec la ville de Nantes et où on s'est dit, on peut y aller, c'est possible.
Il faudrait se demander pourquoi 5 ponts. Donc 5 ponts, c'est 5 composantes. Donc on a la capacité d'agir des personnes accueillies. On a le vivre ensemble. Ça rejoint le changement de regard. Et puis on a 3 axes qui sont fondamentaux, qui sont le logement, la santé et l'emploi. Voilà, ça nous fait nos 5 ponts. Après, les 5 ponts, c'est aussi le fait de relier entre eux des services. Donc dans ce bâtiment, on va avoir le pôle d'accueil des personnes sans-abri, mais on va avoir aussi un restaurant ouvert sur le quartier, une salle de vente Emmaüs, des plateaux d'entreprise sur le volet emploi, des logements, aussi bien des logements sociaux que des logements en accession libre, et une ferme urbaine qui va boucler un petit peu tout ça pour permettre un peu de travailler l'économie circulaire et l'emploi. Ici, on est sur l'île de Nantes, dans ce qu'on appelle le futur quartier de la santé. On n'est pas du tout dans un cadre d'habitat social dense. Il est très bien placé parce qu'il va permettre d'intégrer cet établissement dans un quartier complètement nouveau, ce qui est une vraie opportunité pour construire quelque chose avec plein de partenaires qui seront autour.
Aujourd'hui, on est sur un site qui est effectivement assez dur. Si on se projette dans 5 ans, dans 10 ans, on aura un axe directement en lien avec le centre-ville, on aura du tramway qui passera derrière nous en transport en commun. Donc il y a déjà une question d'intégration de manière générale à la vie urbaine et à la cité. Après, il y a ce qui se passe en termes de programmation, c'est-à-dire qu'il y aura du commerce, il y aura des bureaux, il y aura des logements plus classiques, il y aura une résidence avec des étudiants, on peut espérer qu'ils collaboreront avec l'association, il y aura peut-être une crèche qui s'installera, et puis il y aura à terme le CHU pas très loin. Donc voilà, c'est une intégration dans un projet plus global avec un ensemble de programmes qui mélangent tout ce qui fabrique la ville aujourd'hui. Et la question de la pauvreté en fait partie.
Le challenge, c'est de faire côtoyer une mixité de population, mais ne pas l'imposer. C'est primordial, on peut pas. Il y a des moments dans la vie où on n'a pas forcément envie de croiser le voisin d'en face, les personnes qui vont être accueillies, et inversement, les personnes accueillies ont besoin aussi d'être préservées et avoir un minimum d'intimité. Donc on facilite la rencontre, mais on choisit cette rencontre, on ne l'impose pas. Dans cette perspective, on voit le local Emmaüs, la sortie du local Emmaüs qui arrive sur l'esplanade. Cette esplanade se veut être un lieu de rencontre ouvert sur le quartier avec un voile qui vient couvrir cette partie qui crée comme une forme de halle qui vient intimiser cet espace et en même temps qui l'ouvre sur le cœur d'îlot avec l'accès, la vue sur le restaurant et qui invite à peut-être aller faire une petite pause au restaurant.
La vocation première d'Emmaüs, c'est de remettre les personnes dites exclues justement au cœur du lien social, au cœur de l'économique. Et cette activité économique est un outil pour justement remettre les personnes dans un cadre de solidarité, un cadre de lien social, et donc se reconstruire petit à petit, fonction de ses moyens et des pourcentages de ses moyens et de ses capacités. Donc l'idée de la boutique en ville, dans le projet 5 ponts, est justement un appui, un outil qui, parallèlement, va pouvoir aider des personnes et en même temps faire vivre notre activité économique pour pouvoir, à notre tour, nous, continuer à aider d'autres personnes.
C'est une innovation sans équivalent en France, mais on se donne les moyens de cette innovation, notamment grâce à des fonds européens qui nous permettent d'expérimenter, de concevoir l'entrée dans le bâtiment dans 3 ans, en ayant préparé énormément de choses. Et préparé avec les habitants voisins, les entreprises, les commerçants, avec les salariés, les bénévoles de l'association et bien entendu les accueillis, et puis avec tous les partenaires institutionnels et associatifs qui doivent accompagner ce projet pour sa réussite. Une fois de plus, tout seul, le projet, il n'a pas de sens. Il n'a de sens que parce qu'il est inscrit dans une politique globale et que cette politique, elle est faite d'hommes et de femmes, d'associations, d'institutions, et que c'est tous ensemble, effectivement, qu'on gagnera le pari.
Voilà pour la vidéo qui permet d'avoir un bel aperçu de ce que va être le projet 5 ponts et qui permet de comprendre en partie pourquoi il a pu être sélectionné par une nouvelle initiative européenne qui s'appelle UIA, donc Urban Innovative Actions, donc les actions innovatrices urbaines. C'est une nouvelle initiative de la Commission européenne. Le premier appel, donc nous on a été sélectionnés dans le premier appel qui a été fait en 2016. L'idée de cette initiative européenne, c'est de soutenir des projets pilotes innovants dans l'Europe pour tester des solutions et pour pouvoir derrière les transférer dans d'autres villes européennes. C'est une initiative qui est gérée au niveau de la région Hauts-de-France. Il y a une délégation à la région Hauts-de-France qui est assez pratique quand on est français et qu'on porte ces projets-là, puisque du coup le secrétariat permanent est basé à Lille, donc on peut aussi communiquer en français directement avec les interlocuteurs. Je vais essayer de faire assez vite, parce que c'est vrai que la vidéo prend déjà un peu de temps. Dans l'idée, cette initiative, c'est des projets, les appels à projets sont annuels, et on peut être cofinancé à un maximum de 5 millions d'euros, et c'est une subvention qui vient des fonds FEDER, dont on a déjà entendu parler ce soir. Voilà, je vais m'arrêter là sur le projet de l'initiative, mais voilà, la télécommande. Sur l'intérêt sur comment nous, ça nous est utile au sein des 5 ponts, je vais rapidement montrer les différentes unités de travail, donc work package qui composent le dossier européen. Il y a déjà une première participation sur la préparation du dossier, donc ça permet de couvrir les frais sur le montage du dossier européen. On a une unité de travail gestion de projet qui est donc les trois unités de travail là sont obligatoires entre guillemets sur la réponse à l'appel à projet, mais c'est vraiment très important pour la gestion du projet, justement, de pouvoir avoir des fonds qui accompagnent notamment des moyens humains, puisqu'on a par exemple mon poste qui a été financé, donc ça permet d'avoir un temps plein sur la gestion du projet, donc ce qui est assez intéressant. Un volet aussi communication, donc qui permet de développer une stratégie de communication vraiment spécifique sur le projet, développer des outils de communication, on a pu le voir notamment des vidéos, on a aussi créé un site internet. Et l'idée de la communication, de la stratégie de communication du projet, c'est de mettre en récit le projet, donner à voir ce projet-là pour faciliter derrière justement sa transférabilité au niveau européen, mais aussi permettre que les habitants de Nantes et alentours et les entreprises, etc., puissent s'approprier ce projet et créer vraiment une dynamique solidaire autour du projet. Donc le volet communication était important et a pu être financé par l'Europe. Ensuite, ça c'est ce qui a été dit par Sophie Guillonvert dans la vidéo, c'est que l'Europe, en fait, il y a un gros montant qui est consacré à des activités de co-conception, d'expérimentation et de formation qui vont permettre à l'association Les Eaux Vives notamment d'anticiper le futur fonctionnement de la structure, puisque
le gros montant dont vous parlez, c'est 900 000 euros, c'est ça?
Là, on est sur 900 000 euros. Oui, effectivement, à chaque fois, le montant, il y a le montant de dépenses et le cofinancement est en vert. Donc, on est à 900 000 euros sur ces activités-là. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner le changement de paradigme dans la manière de travailler avec les personnes sans abri et les habitants qui seront alentours. Et tout ça, c'est suivi par aussi une équipe de recherche-action qui est aussi financée par l'Europe. Donc, voilà, un foisonnement d'activités qui vont permettre de vraiment anticiper le fonctionnement du futur pôle. Et enfin, une unité de travail sur l'investissement. Enfin, on a des fonds sur l'investissement. Donc là, on est aux alentours de 4 millions d'euros d'investissement qui ont notamment permis de couvrir les frais pour la ferme urbaine sur les toits. Puisque tout à l'heure, il y avait un peu la question de est-ce que le projet se serait fait sans les fonds européens ? Oui. Du coup, sur l'investissement, ça a permis d'ajouter cette composante aussi innovante sur le projet. Et donc, unité de travail de clôture, puisqu'il y a un aspect important justement dans cette initiative de pouvoir évaluer le projet et de pouvoir transférer derrière les différentes bonnes pratiques qui ont été mises en place. Et pour ça, notamment, on est aussi accompagné par un expert UIA, donc qui est recruté auprès de l'UIA, mais qu'on a aidé à choisir. Donc nous, on a la chance d'avoir comme expert UIA Frick Spinnewen, qui est le directeur de la FENSA, donc la Fédération européenne des associations nationales travaillant sur le sans-abrisme. Donc un vrai expert sur le sujet qui permet d'avoir un vrai regard critique et d'agrémenter encore plus ce projet. Voilà, j'espère que...
Alors, concrètement, là, on a vu des chiffres importants, 900 000 euros, 100 000 euros. Concrètement, c'est combien d'argent ? On sait que c'est jusqu'à 5 millions d'euros.
Nous, on a pris la totale. Quasiment, on est à 4 950 000 euros de cofinancement.
Et si je devais résumer, premièrement, c'est que ça permet de tester des solutions pour transférer, si ça réussit, dans d'autres régions, ces solutions-là. Ça permet de financer des postes et également de communiquer sur place. Ça permet un échange avec la population, aussi un vrai échange. C'est ce qu'on avait entendu dans la vidéo, c'est-à-dire non seulement pour les gens qui ont envie de savoir ce qui s'y passe, mais également qui n'ont pas forcément envie d'être dérangés par ce projet-là, donc avoir une vraie concertation. Et enfin, ça vous a permis d'ajouter une composante innovante justement à ce projet que vous n'auriez pas pu faire sans tous ces fonds, sans cette enveloppe maximale que vous avez réussi à obtenir. Bravo, félicitations. Chaque fois on pouvait avoir 5 millions d'euros, ce serait formidable. Mais écoutez, merci beaucoup Lisa Guérin. Donc, je rappelle que vous êtes coordinatrice du projet des 5 ponts sur l'île de Nantes.
Je vais juste rajouter une chose que j'ai pas dit, parce que mine de rien, le fait d'intégrer aussi une initiative comme ça, ça permet de réfléchir à d'autres échelles. C'est vrai qu'on est amené du coup à participer à des événements européens dans le cadre d'EuroCities, etc. Et du coup d'être dans une dynamique d'échange, et même le simple fait d'être là ce soir, c'est aussi le fait d'avoir été recruté, enfin sélectionné par l'UIA permet d'avoir d'autres regards aussi sur le projet et d'agrémenter avec des échanges au niveau européen. Et ça, c'est aussi un vrai avantage.
Alors, je rappelle qu'on va bientôt passer à la deuxième partie de ce débat, de cette conférence, où vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, commencez à préparer vos questions. Mais juste avant cela, je me tourne vers Vanessa Charbonneau. Je rappelle que vous êtes vice-présidente aux affaires européennes de la région des Pays de la Loire. Qu'est-ce que tous ces exemples, justement, vous inspirent ? Est-ce qu'il y a vous trouvez qu'on va dans le bon sens dans ces cas-là ou...
Moi, je trouve qu'ils sont une belle illustration de ce que l'Europe apporte, tant sur les territoires ruraux que plus urbains. Mais surtout, ça démontre que l'action de l'Union européenne sur nos territoires, c'est une action qui permet d'innover, que ce soit de l'innovation sociale, que ce soit de l'innovation scientifique, que ce soit de l'innovation territoriale par les différents partenariats qu'on peut mener. Et c'est en résumé, préparer nos territoires, préparer l'Europe à l'avenir. Que ce soit par la transition énergétique, que ce soit par la recherche et l'innovation. Et je vais juste revenir sur un sujet. Vous me disiez tout à l'heure comment on arrive à en parler ou comment on arrive à faire savoir ce que l'on fait. C'est aussi en s'appuyant sur nos partenaires, des acteurs que nous accompagnons, qui sont notamment les maisons de l'Europe. Donc je regarde la présidente qui est très concentrée, donc que je veux remercier pour cette initiative aujourd'hui et pour cette conférence ce soir. Donc les maisons de l'Europe, Radio Nantes et d'autres sur lesquelles nous nous appuyons pour pouvoir sensibiliser nos concitoyens, les Ligériens, à ce qu'est l'Union européenne et à ce qu'est sa plus-value au quotidien.
Alors je vous propose d'applaudir tous nos intervenants. Moi qui travaille beaucoup sur les questions européennes, ça fait du bien de voir justement le concret de cette Europe et de voir justement la dimension de politique, mais alors politique avec un grand P, justement de politique européenne, justement sur le territoire. Est-ce que nous avons des questions dans la salle ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez-y, madame. Alors, vous avez une minute pour poser votre question. Et je vais vous demander, on vous a présenté nos intervenants. Je vous demande juste de vous présenter, alors ne serait-ce que par un prénom, pour qu'ils sachent qui les interpelle.
Donc, Laurence, je peux me présenter. Laurence Gourville, je suis chargée de mission à Relations internationales européennes à la ville de Rezé. Donc, j'ai une question qui concerne, madame et monsieur, sur le dispositif d'apprentissage. Donc, c'est dans le cadre de, à l'échelle européenne, donc l'apprentissage entre, je crois, dans le cadre du programme Erasmus+. Et dans le cadre de la mobilité des jeunes apprentis, est-ce qu'il est possible d'avoir par exemple des jeunes qui suivent des formations dans le cadre du dispositif d'apprentissage, des formations par exemple en France et des stages dans des entreprises européennes? Est-ce que vous proposez, est-ce que vous accompagnez ces jeunes sur ce type de parcours?
Alors, je vais prendre tout de suite une deuxième question. Est-ce qu'on a déjà une deuxième question? Allez-y, juste devant. Juste devant, madame. Voilà.
Bonsoir. Pauline Verbaenen, moi je suis bénévole dans une association nantaise, une petite association conventionnée notamment par l'université et la région. Et je voulais vous demander comment est-ce que concrètement une petite structure comme la nôtre peut éventuellement bénéficier de fonds européens pour développer notre projet.
Très très bien. J'adore ce genre de questions très concrètes, en plus posées de manière rapide. Donc on va commencer par la question de Laurence. Alors la personne qui va répondre, c'est monsieur François Couillot. Donc je rappelle que vous êtes directeur du CIFAM. Voilà, qu'est-ce que vous voulez répondre à cette question?
Donc la réponse est oui. On peut faire partir des jeunes, j'irais, sur ce type de mobilité. Donc il y a deux types aujourd'hui, j'irais, de mobilité qui sont possibles pour nos jeunes apprentis. Soit une mobilité pendant la période de formation, ce qu'on appelle l'Erasmus court dans notre jargon. Donc là, les jeunes peuvent partir avec l'accord de l'entreprise, puisque je rappelle qu'ils sont salariés d'une entreprise, donc il faut l'accord de l'employeur pour pouvoir mettre en place ce type de mobilité. Donc là, à titre d'exemple, nous, sur les 2500 apprenants, on a à peu près 10%, on a 250 jeunes tous les ans qui s'inscrivent dans ce type de dispositif. Et puis on a aussi l'Erasmus long, dans notre jargon, donc ça c'est de la mobilité post-apprentissage. Donc l'apprenti a terminé son cursus de formation, il a la possibilité de partir 6 mois dans une entreprise, en lien bien sûr avec le secteur professionnel qui est le sien, pour se former dans d'autres techniques qui parfois sont un petit peu éloignées de ce qu'on peut connaître. Je pense à la boulangerie pour nos jeunes boulangers, quand ils vont dans des pays où la boulangerie, ça se résume à une baguette et un pain au lait. Le choc peut être parfois un peu frontal.
Et donc, oui. Est-ce que justement pour ces jeunes, parce que vous parliez de public atypique, en France on a une mauvaise image de l'apprentissage, malheureusement. C'est souvent des jeunes, en plus, parfois, qui peuvent être en difficulté. Le fait de partir à l'étranger, est-ce que c'est comme pour les étudiants avec Erasmus? Est-ce que, justement, c'est pas repartir d'une page blanche, entre guillemets? Est-ce qu'il y a un avantage pour eux à partir? Est-ce qu'il y a une côté de réalisation pour eux dans ces voyages, justement?
Alors oui, il y a une part de réalisation. Et non, l'apprentissage, c'est pas que pour les mauvais.
Non, je
le précise parce que on le dit beaucoup, on le dit souvent. Je peux vous assurer que c'est pas vrai. On a fêté nos 30 ans il y a une semaine. On a célébré le mur de l'excellence avec des meilleurs apprentis de France au niveau national, au niveau régional et départemental. Donc moi je martèle dès que j'en ai l'occasion et je me permets de le faire ce soir. On a de très belles réalisations et surtout des taux d'insertion. Puisque nos jeunes, quand ils sortent de nos CFA, ils sont en emploi, 8 jeunes sur 10. Donc voilà, passez le message si vous en avez l'occasion. Et donc oui, pour répondre à la question, on a des jeunes qui forcément, quand on a 16, entre 16 et 24 ans, quand on part sur ce type de dispositif, on en revient forcément changé, chamboulé. Mais c'est vrai, je dirais, quel que soit le type de parcours, que ce soit de l'apprentissage ou hors apprentissage. Donc nous, on les encourage. On les encourage parce que cette expérience-là, elle est aussi valorisable sur un CV. Et on a des jeunes, d'ailleurs, aujourd'hui, qui sont dans tous les pays du monde, principalement dans le milieu de la restauration et des métiers de bouche. Donc il n'est pas rare qu'on ait une carte postale de la Nouvelle-Zélande, du Canada, du Québec. Ça nous fait aussi plaisir parce que c'est aussi ce qu'on montre aux jeunes qui arrivent dans nos CFA, qui découvrent, et c'est vrai qu'on a cette malchance un petit peu sur le 44 d'être un gros CFA, un des plus gros CFA de France. On se fait souvent taxer de grosses usines. Je peux vous assurer qu'au quotidien, on accompagne chaque jeune de manière très individuelle le parcours pour partir en Erasmus, par exemple. Là, on a un programme de mobilité. On va faire partir une quinzaine d'apprentis du secteur mécanique en Italie. On a à peu près une centaine de demandes pour une vingtaine de places. Donc, il y a une sélection qui est rude aussi. Donc il faut aussi que les jeunes montrent l'envie d'y aller. C'est pas automatique. On leur explique que c'est aussi des financements européens et que je ne veux pas dire que ça se mérite, mais il faut quand même être dans cette logique-là.
Alors, je me tourne vers Guillaume Rotti, donc le représentant de la Commission ce soir, la Commission européenne. On parle en ce moment d'Erasmus, de l'apprentissage, notamment avec, je sais qu'il y a un élu de la région, donc Jean Arthuis, dont vous parliez tout à l'heure, qui est beaucoup là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho à Bruxelles? Parce que comme tout processus européen, c'est toujours très long à mettre en place. Mais est-ce que c'est quelque chose vers lequel, en tous les cas, on a envie de se tourner à la Commission?
C'est quelque chose sur lequel on a très envie de se tourner. Déjà parce qu'on s'y tourne déjà. L'Erasmus pour les apprentis, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps. Avant, ça ne s'appelait pas comme ça. Ça s'appelait Leonardo, si je ne me trompe pas. Mais maintenant, ça s'appelle Erasmus Pro. On a changé le nom, mais le principe reste le même. C'est de faire que la mobilité soit accessible à tous les jeunes européens et pas uniquement à ceux qui sont à l'université, mais à travers tout le cursus scolaire. Ce qu'on a envie de faire, et suite aussi à cette première idée de Jean Arthuis, c'est comment on fait pour allonger la durée moyenne de séjour à l'étranger d'un apprenti. Parce qu'aujourd'hui, ça a été dit par monsieur, le plus fréquent, c'est on passe 15 jours à l'étranger dans le cadre de son cursus d'apprentissage. C'est déjà bien, c'est déjà une expérience, ça permet de se confronter à d'autres, à un autre pays, à une autre langue, à une autre manière de fonctionner, mais bon, 15 jours, c'est pas très long. Donc la difficulté, c'est comment on passe dans l'apprentissage aux mêmes durées de séjour à l'étranger qui peuvent exister sur les études universitaires. Et là, c'est là où on rentre dans l'enfer technique européen, mais qui est naturel, c'est que il y a des pays où les apprentis ne sont pas salariés. En France, ils sont salariés. Il y a des pays où les apprentis sont couverts par leur CFA en termes d'assurance et d'autres, ils sont couverts par leur employeur. Et donc, on rentre dans tout un tas de complexités qu'il faut régler un peu au millimètre pour pouvoir trouver le bon moyen de rester dans des conditions sereines à l'étranger pendant 6 mois pour un apprenti. Et c'est plus difficile que pour un étudiant en université. Et il y a enfin la dernière barrière qui n'est pas la moindre, c'est que l'apprenti travaille pour une entreprise qui le paie. S'il part 6 mois à l'étranger travailler pour une autre entreprise, l'entreprise qui l'emploie n'a pas forcément envie de payer quelqu'un 6 mois ailleurs, d'autant qu'elle n'est pas sûre qu'après l'apprenti restera chez elle. Donc il y a aussi cet aspect financier à régler, mais il y a forcément des solutions. On réfléchit pas mal à des solutions. On est déjà en train d'en trouver et on espère que petit à petit, on va vraiment réussir à augmenter le nombre d'apprentis qui vont pouvoir partir en durée longue, notamment en augmentant le financement public européen pour justement compenser la différence de salaire.
Oui, et là, pour le coup, l'argent viendra des États, donc aussi, il faudra voir comment est-ce que les États ont envie de soutenir, non pas que par les mots, mais également financièrement, ce genre de choses. Je me retourne vers Isabelle Coco, donc vous êtes directrice de l'apprentissage en Pays de la Loire. J'ai vu que vous vouliez réagir. Qu'est-ce que vous vouliez me dire?
Non, en fait, je crois que tout vient d'être dit, mais effectivement, c'est un petit peu ce que j'aurais développé, puisque en fait, la région Pays de la Loire, elle est vraiment aux côtés de Jean Arthuis pour effectivement mettre en place ce projet, parce qu'il nous paraît extrêmement important que les jeunes de CAP, en CAP, en bac pro, en BTS, puisse faire ces mobilités longues qui sont complémentaires des mobilités courtes. Parce que la mobilité courte, comme ça a été décrit précédemment, ça donne envie aux jeunes, voilà, de sortir de l'hexagone et de découvrir une autre réalité professionnelle. La mobilité longue, là, on construit de la qualification en lui donnant une dimension supplémentaire. Donc les deux sont vraiment complémentaires. Et effectivement, on a aujourd'hui en Pays de la Loire des CFA qui ont expérimenté cette mobilité longue. Effectivement, il y a un certain nombre de blocages législatifs à régler. Donc il est question peut-être de suspendre le contrat pendant le temps de cette mobilité, mais dans le cadre d'un partenariat très professionnel entre les deux établissements de formation et en lien avec l'entreprise française et l'entreprise européenne. Donc c'est en cours, comme vous l'avez très bien décrit.
Madame Charbonneau, vous qui êtes à la région, région qui est dirigée par la droite, je sais que M. Jean Arthuis essaye de mettre le projet en marche, on va dire ça comme ça, que M. Macron n'est pas insensible à ça. Est-ce que c'est un projet qui fait consensus et qu'une majorité de droite dans une région comme la vôtre, justement, a plutôt envie de soutenir ce type de projet ? On sait que la région, même avec la précédente majorité, était aussi favorable à ce genre de choses-là. Vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ?
Ce projet-là, très concrètement, c'est quelque chose que nous soutenons, mais même plus que ça, puisque nous sommes la première région qui s'est inscrite dans le projet, qui est là, c'est une autre région et souvent citée par Jean Arthuis comme une région exemplaire en la matière. Et que ce soit dans ce domaine comme dans les autres, pour nous, ce qui compte, notamment dans la mise en œuvre des fonds européens, mais aussi dans les différentes politiques que nous menons, nous accompagnons en lien avec l'Europe, c'est le retour concret qu'on peut avoir sur le territoire. Donc les bonnes actions, nous y souscrivons. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc je ne veux pas dire qu'on suit la marche, mais au contraire qu'on était précurseur de locomotive.
Juste pour répondre à Pauline, juste à moins que vous vouliez répondre.
Je peux.
Allez-y. Oui. Alors c'est Madame Charbonneau qui répond. Alors,
je ne sais pas quelle est la nature du projet. Néanmoins, je vous invite à vous rapprocher des Maisons de l'Europe, mais aussi de nos services, donc les services de la région, donc la DPE que j'évoquais tout à l'heure, donc la Direction des politiques européennes. Et peut-être avant, vous pouvez aller jeter un œil au site internet que nous avons mis en place, qui vous permettra de vous orienter. Et qui est le site europe.paysdelaloire.fr. Et ce site se veut être un portail, donc vous y trouverez beaucoup de choses, puisque vous pourrez trouver à la fois les dispositifs, j'allais dire, plus faciles d'accès, comme le dépôt de dossier pour le FEDER, ou comme pour le dépôt de dossier pour le projet, enfin, l'initiative, je perds mes mots, ça y est, Horizon 2020. Donc voilà, vous pourrez tout trouver. Mais n'hésitez pas à appeler les services de la région qui pourront vous orienter. Je ne sais pas si votre projet sera éligible. Au moment où vous aurez une réponse.
Alors, juste, je vais vous laisser répondre, mais juste un conseil à vous donner. Quand vous vous engagez dans des projets européens, appuyez-vous sur des financements qui sont faits notamment par les régions, les choses comme ça. Parce que si jamais votre projet se plante, quand on est une petite structure, au niveau européen, on n'hésite pas à vous demander de rembourser. Donc il faut juste faire attention à ces choses-là quand on est une petite structure. Et donc généralement, en plus, quand on s'adresse à Bruxelles directement pour des fonds, il faut avoir des associations un peu partout, dans plusieurs pays européens. Donc des fois, c'est un petit peu lourd pour des petites structures. Mais effectivement, votre projet, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas bénéficier de fonds non plus. Je me tourne vers Stéphanie Arnaud. Qu'est-ce que vous vouliez répondre à Pauline ?
Oui, je voulais compléter. Alors, sans parler du territoire sur lequel votre association œuvre, puisque visiblement, c'est à Nantes, c'est ça ? Ah, d'accord.
Sur la région.
Parce que il y a des fonds qui sont mobilisables, donc notamment les fonds gérés en région, qui sont mobilisables sur des projets qui ne soient pas de dimension internationale, ce qui est quand même sinon la majorité des fonds européens. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir un projet sans avoir de partenaire européen qui puisse être éligible à des fonds européens régionaux. En territoire rural, ce sont les fonds FEADER via les programmes LEADER notamment, et certains de ces programmes sont ouverts à des projets associatifs. Par contre, la logique que vous devrez avoir, c'est une logique de projet. C'est-à-dire que ce qui sera éligible, ce n'est pas votre association. Ce n'est pas le fonctionnement de votre association, comme c'est parfois le cas dans les financements publics, nationaux, régionaux, etc. Donc il faut arriver avec un projet, un objectif, des actions que vous voulez mettre en œuvre, des dépenses, retravailler tout ça avec des interlocuteurs dont c'est le métier qui pourront vous accompagner, soit sur les territoires, soit en région, soit à la Maison de l'Europe. Il y a aussi des structures privées qui accompagnent ce type de projet. Et donc, c'est le projet qui peut être éligible selon les programmes auxquels vous allez vous adresser. Donc, nous, par exemple, en Vignoble Nantais, on va pouvoir financer des associations qui vont travailler sur les mobilités alternatives, sur la création de tiers-lieux, sur de la valorisation du patrimoine. Par contre, ce qu'il va falloir souvent, et en tout cas pour les programmes financés par le FEADER, c'est un cofinancement public français au préalable. Donc, ça veut dire que votre premier travail sera de mobiliser des interlocuteurs publics sur des politiques publiques françaises qui vont pouvoir vous accompagner et en complément, donc soit sur du fonctionnement, soit sur du projet, et en complément, vous pourrez solliciter un financement européen. Ce qui permet d'assurer vos arrières en termes de financement, de ne pas mettre tout, en gros, tous vos œufs dans le même panier.
Est-ce que... Non, alors on va prendre d'autres questions de la salle. N'hésitez pas, je sais qu'on est en fin de journée. On vous écoute. Non, vous n'avez pas de... Vous n'avez pas de questions ? Bah écoutez, ce n'est pas grave, parce que je vais me permettre de donner la parole à chacun de nos invités pour qu'ils puissent avoir un mot de conclusion justement sur ce que vous... Ah, si j'ai une question tout au fond. En vous présentant.
Bonsoir, je suis Édouard Duparenot, je suis l'actuel président des Jeunes Européens Nantes, qui est une association politique transpartisane qui promeut avec beaucoup de jeunes de 18 à 35 ans l'idéal européen et la construction du projet européen. Donc ma question est la suivante. Comment nous, jeunes européens, pouvons aider à porter le message européen sur le territoire grâce à des fonds ou des programmes ? On commence à négocier les fonds pour les 7 prochaines années dans la région Pays de Loire. Quelles seront les priorités ? Et enfin, quelles sont les thématiques sur lesquelles vous avez le plus de projets dans la région ?
Ah, bah alors ça, c'est une question pour la représentante des Pays de la Loire. Si vous avez un scoop, n'hésitez pas.
Alors, je n'ai pas de scoop. Il y a 3 questions, en fait. Il y a 3 questions. Comment vous pouvez vous investir, en tout cas travailler à la valorisation de l'Europe et de son action sur le territoire, peut-être en intégrant la Maison de l'Europe.
Les jeunes européens sont déjà en lien souvent avec la Maison de l'Europe.
Et bien, en continuant ce que vous faites.
Je sais que leur dernière université d'été était à Rennes cette année, mais que l'année d'avant, je crois qu'elle était à Angers. Donc ils sont assez présents dans les Pays de la Loire.
Continuez. Sur le poste 2020, donc les discussions qui mèneront à ce que sera la politique de cohésion après 2020, je ne peux pas vous donner les projets qui seront éligibles, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas quelle sera à la fois l'enveloppe, en tout cas le budget de l'Union européenne, et quelle sera la partie du budget qui sera consacrée à cette politique de cohésion. Pour l'instant, notre action, elle vise à faire en sorte que cette politique de cohésion continue d'exister et qu'elle continue à intervenir sur notre territoire, sur notre territoire en particulier. Sur les projets qui sont le plus soutenus, alors, sur les fonds européens, sur FEDER par exemple, on a beaucoup de projets sur l'innovation. Donc innovation, PME, j'ai plus tous mes chiffres en tête, j'ai tout rangé, mais c'est particulièrement l'innovation, les PME. Après on a un gros volet transition énergétique, je l'ai bien en tête parce que cet après-midi nous avions une réunion sur le sujet devant 300-400 interlocuteurs. Voilà, ce sont les deux volets les plus importants. Et je mets à part tout ce qui est FEADER et l'intervention, parce que là c'est la plus grosse enveloppe sur le rural, c'est la plus grosse enveloppe de tous les fonds que nous avons en gestion.
Alors, Guillaume Rotti de la Commission voulait réagir. Vous avez un micro juste là. Dites-moi sur le budget.
Faire un point, parce qu'on a pas mal évoqué ça, mais sans vraiment en parler concrètement, sur le futur du budget européen et qu'est-ce qui va se passer après 2020.
On admire votre courage de vouloir parler de budget à 21h le soir. Ouais, je sais. On vous écoute.
C'est un sujet passionnant. Le problème est le suivant. Les Anglais vont quitter l'Union européenne en mars.
Les Britanniques, pour être précis, parce que le Royaume-Uni contient non seulement les Anglais, mais également nos amis les Écossais et nos amis les Gallois. J'admire et nos amis les Nord-Irlandais.
J'admire votre précision à 21h. Donc les Britanniques vont quitter l'Union européenne en mars 2019 et c'était des contributeurs nets au budget européen, c'est-à-dire qu'ils versaient plus d'argent au budget européen qu'ils n'en récupéraient en retour à hauteur à peu près de 15 milliards d'euros, ce qui veut dire qu'on va devoir trouver, financer les politiques européennes avec moins d'argent. Ça, c'est la première partie du problème. La deuxième partie du problème, c'est que il y a beaucoup plus de choses qu'on a envie de financer ensemble qu'avant. Je vais juste citer deux exemples. Le premier, c'est la gestion des frontières, c'est-à-dire la crise migratoire a montré qu'il fallait qu'on gère les frontières ensemble et que la frontière européenne, elle était en Italie, en Grèce, en Espagne, et qu'il fallait une solidarité européenne pour la gestion de ces frontières. Donc on a créé des corps européens de garde-frontières, mais il faut payer ces gens, il faut mettre de l'argent européen pour faire cette mission-là. Un autre domaine dans lequel on va vraisemblablement vouloir dépenser beaucoup plus d'argent ensemble, c'est la sécurité, tout ce qui est la coopération policière, tout ce qui va permettre de rendre l'Union européenne plus sûre face aux menaces internes et externes. Et donc on a moins d'argent d'un côté, plus de choses à financer de l'autre. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on fait en ce moment qu'on va devoir moins financer. Et la question à plusieurs milliards d'euros, c'est qui va être perdant ? Alors, tous les espoirs ne sont pas perdus. On a encore la possibilité de se dire, si on perd 15 milliards d'euros, on peut essayer de les retrouver ailleurs et donc d'augmenter le budget européen. Ça, il y a plusieurs propositions. Soit chaque État donnera un peu plus, soit on essaiera de trouver une ressource propre, donc un financement par une nouvelle taxe ou par l'attribution par chaque pays d'une partie des taxes.
En gros, pour résumer, arrêtez de... Soit vous continuez à avoir de l'argent de poche de la part des États qui vous donnent un petit peu plus d'argent de poche que d'habitude, alors vous parlez de ressources propres, c'est en gros un impôt, c'est-à-dire que vous collectez vous-même l'impôt, et que, quand je dis vous, l'Europe collecte l'impôt, et donc décide par elle-même sans avoir besoin de justifier auprès des États avant de ce qu'elle veut en faire. Quoi.
Voilà, l'option, c'est on ne collectera pas nous-mêmes, parce que ça, on n'est pas habilité à le faire, et on ne le fera pas dans un avenir proche, ni même assez lointain, mais ce serait, par exemple, de dire... Il y a X% de l'impôt sur les sociétés collecté par chaque pays qui va directement au budget européen sans aucune négociation. Ça, c'est une ressource propre, par exemple. Donc ça, c'est toujours possible. Hein, c'est en discussion et la Commission a fait des propositions là-dessus. Et après, il faudra faire le choix de quelles sont les priorités européennes. Est-ce que c'est maintenir la politique de cohésion et la politique de fonds structurels ? Est-ce que c'est investir plus sur la politique de migration ? Est-ce que c'est investir un peu moins sur la politique agricole commune, et ça, c'est tout l'enjeu des négociations qui vont avoir lieu à partir, en gros, de mars-avril de cette année, où la Commission va faire une première proposition qui sera discutée par chacun des pays, et où je suis sûr que tout le monde essaiera de porter la voix de quelles sont pour lui les priorités de l'Union européenne.
Alors, juste avant de donner une dernière fois la parole à nos invités, je voudrais quand même rappeler que cette conférence, cette journée sur l'Europe qui investit en Pays de la Loire. Ça a quand même été donc organisé par la Maison de l'Europe de Nantes et Centre d'Info Europe Direct. Mais ça n'a pas pu se faire sans l'aide de la Caisse des dépôts, de la Banque européenne d'investissement, de la représentation en France de la Commission européenne, de l'entreprise Daher et de nos amis de Radio Nantes également qui ont permis d'organiser tout ça. Donc je vous demande non seulement d'applaudir les intervenants, mais également tous les gens et tous les bénévoles qui ont permis d'organiser cette journée. Alors cette fois, on va faire dans le sens contraire. Je me tourne vers Lisa Guérin. Donc vous êtes coordinatrice du projet des 5 ponts sur l'île de Nantes.
Toujours.
Qu'est-ce que vous avez envie de... Non, mais je le dis parce que souvent... On passe directement, puis après on oublie, donc il faut rappeler le titre des gens. Lisa Guérin, vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie que les gens retiennent ce soir ?
Qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent que l'Europe...
Votre projet est formidable, ça on l'a vu.
Oui, c'est ce que je voulais dire, oui. Non, mais je pense qu'effectivement, il faut saisir des opportunités que l'Europe offre au projet, puisque nous, c'est un... Ça a vraiment été un vrai levier, vrai appui pour le projet, et c'est ce qui fait que on va réussir à mener à bien ce projet qui date d'il y a très longtemps. Et puis sinon, je vous invite à en découvrir plus sur notre site www.5pont-nantes.eu. 5 en chiffres. Et .eu, puisque justement nous sommes dans une dynamique européenne. Avec l'actualité du moment, c'est que nous sommes à la recherche de gestionnaires pour la future ferme urbaine et le restaurant solidaire. Donc si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés pour faire partie de l'aventure 5 Ponts, n'hésitez pas à communiquer cette information. Merci.
On peut l'applaudir. Stéphanie Arnaud, vous êtes chargée de mission leader donc, pour le pays du vignoble nantais, donc notamment pour les territoires ruraux. Qu'est-ce que vous avez envie que les gens retiennent ? Qu'il y a plein de choses à faire ?
Oui, il y a plein de choses à faire, mais les gens font beaucoup déjà. Moi, ce que j'aurais envie de répondre en conclusion, c'est répondre à la question que vous posiez tout à l'heure sur mais comment est-ce qu'on peut parler plus d'Europe ? Comment est-ce qu'on peut faire que les gens comprennent, se saisissent, etc. Je pense que les meilleurs ambassadeurs de cette Europe, avec ses défauts, ses complexités, ses atouts, ce sont les bénéficiaires des fonds européens. Et c'est à eux de peut-être d'en parler aussi, parce que ce sont des acteurs des politiques publiques, puisqu'ils en bénéficient et ils œuvrent avec et pour les politiques publiques européennes. Le message, c'est l'Europe, c'est nous. C'est pas un truc, mais un machin. L'Europe, c'est nous, c'est ce qu'on en fait. C'est nous qui véhiculons des choses. Et malheureusement, l'Europe n'est pas incarnée. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est personne. Comment il disait le président des États-Unis ?
C'est quel numéro ?
Voilà, l'Europe, le numéro, s'il vous plaît. Voilà. Et aujourd'hui, elle n'est pas incarnée sur les territoires. Donc, c'est à nous de l'incarner. Moi, je le fais au quotidien. On m'appelle Madame Europe, alors que je n'ai pas du tout l'impression d'être Madame Europe. Mais c'est à nous de véhiculer ces choses-là et de mettre l'Europe en débat dans nos comités de programmation. Alors, on ne parle pas du projet européen, mais on parle des exigences qualitatives qu'on peut avoir sur des projets européens. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce que là, le projet de rénovation énergétique, il nous semble suffisamment innovant, qualitatif ? Est-ce qu'ils peuvent faire plus ? Et tel projet, voilà, donc ça se débat au quotidien et réapproprions-nous ce projet qui semble malheureusement nous échapper parce qu'on le veut bien.
On peut l'applaudir. Alors après la Madame Europe, je me tourne vers le Captain Europe de l'apprentissage, François Couillot, donc vous êtes directeur du CIFAM. Qu'est-ce que vous avez envie que les gens retiennent justement par rapport à ça ? Est-ce que vous êtes content d'être venu ce soir déjà ?
Très, très. J'attends le résultat du match de foot, par contre. Non, c'est une blague. Ce que les gens retiennent, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément que l'apprentissage recèle de talents, je l'ai dit tout à l'heure. Que pour faire, je dirais, vivre ces talents, on a besoin d'une équipe pédagogique et de gens qui collaborent autour des projets des jeunes. Je ne sais pas vous que je vais l'apprendre, on a une société qui évolue, on a des jeunes qui évoluent et c'est de plus en plus complexe au quotidien d'accompagner ces jeunes. Donc nous, le financement européen, il est. Alors je ne vais pas dire qu'il est. On pourrait, je pense, faire sans. Maintenant, je veux quand même préciser qu'on est en pleine réforme aujourd'hui de la formation professionnelle, qu'on entend beaucoup de choses et qu'on espère, en tout cas pour ce qui nous concerne, que la compétence va rester au niveau de la région, parce que le binôme, je crois qu'il fonctionne plutôt bien aujourd'hui. Il ne faudrait pas que ça s'arrête, parce que c'est des enjeux pour demain, et nous, on le sent, parce qu'on est plus au cœur des choses. Voilà, c'est le petit message un peu que je voulais faire passer ce soir. Voilà, donc nous, l'Europe, ça nous va très bien. On a une petite crainte par rapport à cette réforme qui est en débat actuellement. C'est quelque chose qui marche, qui fonctionne. Donc faisons en sorte que ça continue de fonctionner et que ça continue de marcher pour nos jeunes, pour l'avenir. Merci.
La parole est à Isabelle Coco, donc directrice de l'apprentissage en Pays de la Loire. Juste dites-moi, l'événement le 15 décembre, il est ouvert au public ou c'est juste pour les CFA ?
Alors, il est à destination des lycées. D'accord. Et des CFA, en fait. Donc, vraiment, il s'adresse aux établissements de formation pour les accompagner de façon à ce qu'ils se saisissent encore mieux d'Erasmus+. Et ce sera l'occasion aussi d'accueillir Jean Arthuis par rapport au projet Erasmus Pro. Voilà. Qu'est-ce que je retiens de cette séquence? Ben, je trouve déjà que c'est une belle séquence parce que ça faisait. Enfin, je remercie d'ailleurs de nous avoir invités à y participer. Je pense qu'il est très important d'inscrire l'apprentissage dans un cadre européen. Je pense qu'on a tous à y gagner, les jeunes, les établissements de formation, les institutionnels, dans la mesure où ça donne du sens. Voilà. Et je pense qu'il faut véritablement ouvrir les jeunes sur le monde de demain et il ne faudrait vraiment pas perdre ce magnifique projet européen. Donc, on ne sait pas ce qu'il en sera demain des financements pour accompagner les CFA, mais il faut vraiment se battre pour renforcer la mobilité européenne des jeunes et réussir cette mobilité longue des apprentis dans un cadre de réciprocité. Je pense qu'il faut vraiment que les jeunes de la région aillent vers les pays européens et qu'on accueille aussi des pays européens. Je pense que la réciprocité, c'est extrêmement important si on veut vraiment produire de la connaissance réciproque qui pourra vraiment produire des racines et donner des fruits.
Merci beaucoup. Alors, on parlait de l'événement du 15 décembre, mais je tiens à signaler que la Maison de l'Europe de Nantes organise à Saint-Nazaire, le 13 décembre prochain, un événement à 18h30 qui s'intitule « Parlons d'Europe en région ». Donc, vous êtes cordialement invités à venir le 13 décembre à Saint-Nazaire. Et vous avez toutes les informations sur le site de la Maison de l'Europe de Nantes. Là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, votre navigateur favori est votre ami. Justement, on parlait de région. Je me tourne vers Vanessa Charbonneau, donc vice-présidente des affaires européennes à la région Pays de la Loire. Je signale aussi qu'on a pu organiser cette journée aussi grâce à la région. Donc, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez envie que les gens ici retiennent?
Alors, je ne sais pas si j'ai envie de vous dire ce que vous avez à retenir, mais plutôt moi, ce que je retiens ce soir, c'est que... En fait, la meilleure démonstration, vous l'avez dit, la meilleure démonstration de l'utilité de l'Europe, c'est la démonstration par la preuve. Et nous, nous sommes convaincus que c'est la meilleure façon de... Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne a du mal à faire entendre le discours de sa plus-value ou de son intérêt. Donc c'est à nous, sur les territoires, de démontrer qu'il est réel. Et ce que je retiens, et j'en étais convaincue par avance, que c'est par la preuve que nous arriverons à le démontrer. Et c'est aussi le sens de notre action, notamment par les communications que nous mettons en place et par le travail que nous effectuons au quotidien auprès des porteurs de projets.
Et comment s'appelle le site où il faut aller regarder pour avoir toutes les informations?
europe.paysdelaloire.fr.
Merci beaucoup. Et enfin, je me tourne vers Guillaume Rotti, donc le représentant de la Commission européenne en France. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous avez pris des bonnes choses? Est-ce que vous allez faire un bon feedback à Bruxelles et leur dire que c'est formidable ce qui se passe ici?
J'ai passé une très bonne journée, une très bonne après-midi. Et oui, en fait, moi, ce que je voulais mentionner, c'est... J'ai un peu un sentiment de fierté, en fait. Fierté très mal placée, parce que je suis absolument pour rien à tous les projets qui sont faits, qui sont réalisés ici et qui ont été financés par l'Europe, si ce n'est que d'être un petit rouage dans la machine. Mais j'ai vraiment content de voir qu'il y a énormément de choses qui se réalisent par les fonds européens, content de voir que... C'est pas seulement c'est de l'argent, c'est des financements, mais c'est aussi un aiguillon pour faire les choses un peu mieux, un peu différemment, pour faire des projets qualitatifs, pour offrir une expérience à l'étranger à des apprentis et les ouvrir sur ce que c'est que l'Europe et leur apporter plus de chances de trouver un travail à la sortie et d'être plus épanoui et plus heureux. Et donc c'est vraiment le... Voilà, je me dis que ça sert à quelque chose l'Europe et que quand c'est porté par des acteurs qui sont motivés et qui ont envie de le faire, ça marche et qu'il faut qu'on dise ça plus souvent, plus régulièrement. Et je suis prêt à le dire à Bruxelles et puis à venir écouter aussi ici de nouveau des belles histoires comme ça.
Bien, écoutez, moi je close cette journée, je close cette soirée, je vous remercie beaucoup de votre écoute attentive et je vous souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine dans un événement de la Maison de l'Europe de Nantes. Merci beaucoup, au revoir.
C'était l'Europe investit dans les pays de la Loire, quels enjeux ? Une conférence organisée par la Maison de l'Europe à Nantes et enregistrée au CCO de Nantes le 5 décembre dernier. Vous souhaitez réécouter cette conférence ? Rendez-vous sur le site d'Euradio sur www.euradio.fr.